6h19, partons sur la Lune à présent avec notre invité, astrophysicien, chercheur au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Cet été, on célébrera le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Neil Armstrong a dit ceci.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Bonjour François Forget.
Bonjour.
François Forget, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Comment vous recevez-vous, en tant que scientifique, cette phrase de Neil Armstrong, mais 50 ans après ?
Bah, c'est vrai que c'était il y a 50 ans. Et maintenant, pour beaucoup de jeunes, je dirais presque jusqu'à mon âge, eh bien, c'est presque la science-fiction. C'est absolument fantastique de voir ces astronautes pour revenir sur la Lune. Et on se dit que, ah, on aimerait bien revoir ça. Et ça paraît maintenant la science-fiction. Parce que depuis, effectivement, avec les moyens plus faibles qui ont été alloués à l'exploration humaine de l'espace, quand même des gros moyens, on a la Station Spatiale Internationale, on a beaucoup de projets pour l'avenir, eh bien, le temps passe et puis on n'a pas encore repris une exploration aussi ambitieuse que dans les années 60.
Mais ça veut dire que la Lune n'a plus le même intérêt ?
Alors la Lune en tant que telle a toujours l'intérêt scientifique, mais il faut faire attention quand on parle d'exploration humaine, parce que l'exploration humaine ce n'est pas que de la science. Quand on fait des missions robotiques, comme on fait sur Mars ou autour de nombreuses autres planètes dans le système solaire, là vraiment la motivation est scientifique, les budgets sont en rapport avec des problématiques scientifiques comme en physique, comme en chimie, etc. L'exploration humaine c'est à la fois beaucoup plus cher mais en même temps plus extraordinaire, c'est motivé par autre chose, ça peut être du prestige national, notamment autrefois, ça peut être une volonté de nombreux contribuables dans des pays comme les États-Unis mais aussi en Europe, d'avoir des ambassadeurs et de partager cette aventure pour le prix d'un ou deux films par an, hein. C'est pas un prix très élevé, eh bien d'avoir une nation ou un peuple ou toute l'humanité, voilà, on peut prendre des accents un peu poétiques, qui aille explorer une nouvelle frontière. C'est particulièrement sensible aux États-Unis, mais je sais que de nombreux Français partagent aussi cette envie de « ouais, il faut avancer, les gens étaient enthousiastes pour Thomas Pesquet ». Donc l'exploration humaine de l'orbite proche, par exemple, ou de la Lune, ou plus tard de Mars, eh ben, c'est motivé par autre chose. Ce qui fait que retourner sur la Lune, ce n'est pas qu'une question de science.
Et quelle est la différence entre un robot qui se pose sur la Lune et ce qu'il peut apporter pour nous sur Terre, et ce que fait un homme quand il va sur la Lune ?
Ben, la différence est énorme, en fait. Ce que les astronautes peuvent faire est beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant scientifiquement que ce qu'on peut faire avec des robots. La raison, c'est que les robots ont c'est quand même l'énergie est limitée, ils ont souvent un bras télécommandé, ils peuvent prendre des photos, avoir quelques instruments, mais tout ça est assez lent. Et l'homme est beaucoup plus efficace pour faire, par exemple, de la géologie, ramasser des échantillons, utiliser des instruments, mettre en place, à l'époque d'Apollo, par exemple, on a eu des très très beaux résultats scientifiques en posant sur la Lune des sismomètres, ou faire des forages, ramener des échantillons, bref, toute une longue liste de choses que peut faire l'homme, mais pour un coût extrêmement élevé. Mais la science peut être très intéressante. Donc, pour résumer, les robots, c'est moins cher, mais ça fait de la science très spécialisée et très lente. Et puis les astronautes peuvent tout faire en même temps de manière très efficace, mais pour un coût très élevé, donc qui ne peut pas être justifié uniquement scientifiquement.
Et depuis, on sait de quoi est fait la Lune ? D'ailleurs, on sait comment elle s'est formée ?
On pense que quand la Terre s'est formée, quelques dizaines de millions d'années après sa première formation, eh bien, elle a percuté un autre, ce qu'on appelle une protoplanète, vous voyez, un corps de la taille de Mars quand même. Ouais. Et tout ça a fait une énorme explosion. Une partie de ce matériel qui s'est retrouvé dispersé dans l'espace s'est a reformé la Terre, qui n'a pas été totalement détruite. Et puis, beaucoup de débris qui se sont mis en orbite autour de ce corps à l'époque, eh bien, se sont condensés, ont fait une grosse boule. Et cette grosse boule, c'est la Lune. Donc finalement, la Lune, elle est faite de matériaux très proches de ce qu'on trouve sur Terre, en fait. Les deux corps ont une origine commune. Et ça, c'est vraiment une des découvertes apportées par Apollo, et en particulier le fait qu'on a ramené des échantillons de la Lune, des roches lunaires, sur Terre pour les analyser en détail.
En quoi, aujourd'hui, la Lune est encore importante ?
Ça reste un autre monde, quand même. Pour faire simple, la Terre, telle qu'on la connaît, tous les continents, toutes les surfaces sont extrêmement récente géologiquement. La Lune, elle, a été formée donc il y a 4,47 milliards d'années, donc il y a très 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 longtemps. Et depuis, bon, alors il y a quelques terrains sur la Lune qui datent de cette époque très ancienne ou un petit peu plus tard, d'autres terrains un peu plus récents, mais c'est vraiment un témoin de l'environnement, de comment ça se passait dans la prime jeunesse du système solaire. Et donc on peut retrouver des échantillons, des témoins de cette époque-là et les analyser. Et puis j'ajoute derrière que vous avez cette géologie sans équivalent sur Terre. Donc on apprend beaucoup en termes de géologie, on apprend aussi des choses sur la Lune aussi à accumulé depuis des milliards d'années, là aussi, des particules venues du Soleil. Et elle les a accumulées comme ça, année après année. Donc quand on étudie la surface de la Lune, quelque part, comme il n'y a pas d'atmosphère, eh bien on récupère aussi des petits morceaux de Soleil ou particules venues du Soleil qui sont accumulées là depuis des milliards d'années.
L'avenir de la Lune, c'est, on y pense hein, beaucoup, c'est d'installer une base sur la Lune.
Ouais, alors il y a un débat en cours actuellement. L'idée, c'est que à l'époque du président Obama, Obama avait dit oh, on a déjà été sur la Lune, si la NASA met ses moyens dans quelque chose, vaudrait mieux que ce soit pour aller vers Mars. Bon, alors depuis, on a l'administration Trump qui a dit oh non, on va quand même faire des choses sur la Lune. De tout ce qui est vrai et ce qui est dans les cartons de la NASA, c'est de créer une base non pas sur la Lune, mais autour de la Lune. Le Lunar Orbit Gateway, on appelle ça dans le jargon, qui va être constitué peu à peu. Il y a des nouveaux moyens spatiaux qui sont développés pour cela, une nouvelle capsule qui s'appelle Orion, une superfusée, etc. Le tout va se mettre en orbite autour de la Lune. Et là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Il y a trois possibilités. Soit on retourne sur la Lune un peu comme Apollo pour quelques jours, on explore à nouveau, une forme d'entraînement pour des futures missions peut-être vers Mars. Soit on crée une base permanente sur la Lune, un peu comme on a la station spatiale internationale, mais sur la Lune, qui serait aussi, je pense, internationale. Mais là, évidemment, c'est très ambitieux et ça prendra énormément de ressources disponibles. Et ça empêcherait peut-être la troisième option, qui est de plutôt, comme Obama le suggérait, de viser Mars et de préparer une mission humaine vers Mars plutôt que retourner pendant des dizaines d'années sur la Lune. Donc, voilà le débat en cours.
Donc l'idée d'une planète, enfin l'idée de la Lune, rampe de lancement pour aller sur Mars, c'est pas l'idée en fait. Hein.
Oui, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de se poser sur la Lune et de construire une base de lancement avec des fusées pour aller vers Mars. Par contre, la Lune est un très bon entraînement pour beaucoup d'opérations, pour savoir vivre sur une surface, construire des stations, etc. Pour Mars, entraînement au sens où, même si la Lune est loin, on met que quelques jours pour y aller avec un vaisseau spatial, quand on est un astronaute, alors qu'on met plus de 6 mois pour aller sur Mars. Et puis d'autre part, en se mettant en orbite autour de la Lune, eh bien, il y a quand même là une possibilité de construire, non pas en orbite autour de la Terre, mais en orbite autour de la Lune, qui est plus loin, et donc, comment dire, avec un avantage énergétique en termes de moteur fusée, pour préparer un vaisseau spatial qui irait vers Mars, vous voyez. Mais tout ça n'est pas tranché, hein. C'est débattu, il y a des avantages, des inconvénients, il y a des débats. Et donc il va quand même y avoir du changement quand même, il va se passer des choses dès cette année, même en 2019.
François Forget, votre rêve d'astrophysicien en 2019?
Mon rêve, il y en a beaucoup. D'abord, sans que ce soit des rêves, il va y avoir beaucoup de belles aventures dans l'exploration spatiale cette année. À commencer par cette nuit, le survol d'un objet extrêmement lointain, le plus lointain jamais exploré, qui s'appelle Ultima Thulae, aux confins du système solaire, la mission New Horizons, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé à l'époque où elle a survolé Pluton, en 2015. Et puis, derrière ça, on va récupérer des informations d'un peu partout, autour de Jupiter, de Vénus. Et même, c'est une année aussi, on va beaucoup apprendre sur les planètes autour des autres étoiles. Vous savez, ça, c'est une révolution qui est en cours. Non seulement on a le système solaire à explorer, mais maintenant, on a littéralement des milliards d'autres systèmes à découvrir. Et c'est quelque chose qui vraiment va prendre de l'ampleur cette année.
Merci François Forget, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, d'avoir été le premier invité de l'année du 5-7. Merci et belle année à vous.
Merci.